Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour à vous tous et à toutes. Bienvenue dans cette revue de presse du 18 janvier 2021. Voici les titres de l'actualité. Comment avoir la paix quand on a perdu deux enfants d'une maladie orpheline ? Nous allons être avec Anne-Dauphine Julien. Vous la connaissez peut-être personnellement, mais surtout pour son livre « Deux petits pas sur le sable mouillé » paru en 2011. Anne-Dauphine Julien a livré un entretien au magazine Prier numéro 428 sur la souffrance. Une longue méditation sur la souffrance à la lumière de son dernier livre « Consolation » paru aux éditions Les Arènes. Nous poursuivons avec Marie-Caroline Schur, donc vous savez, une jeune femme handicapée, privée de ses bras et de ses jambes, une jeune femme qui croque la vie à pleines dents. Elle nous donne un témoignage bouleversant sur son handicap, qui est un véritable appel à aller vers l'autre. Son témoignage est présent sur la plateforme Aletheia. Culture chrétienne. Quel livre, selon Laurent Guay, peut être une bombe de miséricorde dans un monde de discorde? Et bien celui de Priscille Roquebert, intitulé « Du poison au pardon », paru aux éditions du Sacré-Cœur. Confrontée à la maladie et à la violence de son père, cette petite fille a vécu de gros traumatismes avant de faire l'expérience du pardon. Priscille Roquebert sera également notre invitée ce vendredi 22 janvier à 9h15 en direct sur Radio Maria France. Et nous terminerons cette revue de presse avec un livre sur la délivrance, intitulé « Libère-nous du mal, guide de discernement et chemin de délivrance des phénomènes diaboliques » du père Jean-Christophe Thibault, prêtre du diocèse de Metz. Nous commençons cette revue de presse avec Anne-Dauphine Julien. Donc, suite à un entretien qu'elle a donné au magazine Prier numéro 428, un entretien donc sur la souffrance. Beaucoup de lecteurs de Prier vous ont lu et ont été touchés par votre histoire. J'aimerais en leur nom vous demander comment allez-vous ? Réponse de Anne-Dauphine Julien. Il est difficile pour moi de répondre à cette question dans l'absolu. C'est évidemment fluctuant. À l'instant où je vous parle, je vais bien. Mais lorsqu'on a subi certaines épreuves, on peut être submergé par la vague à tout moment. Même si le temps fait son œuvre, demeure une dualité permanente de sentiments entre d'une part une peine, parfois vive, toujours présente, qui ne me quittera jamais, et d'autre part un sentiment de paix. La souffrance est quelque chose d'éminemment personnel. Elle nous appartient complètement. Ce n'est pas une question de décence, mais elle est véritablement indicible. Les mots ne peuvent pas dire totalement ce que j'ai vécu, et cela n'aurait pas d'intérêt. La souffrance se vit seule, dans l'intimité de ce que l'on est. Il est normal que je ressente de la solitude dans ce que je suis le plus profondément. Cette solitude de la souffrance n'est-elle pas ce qui est le plus dur dans l'épreuve ? La solitude n'est pas l'isolement. Si elle devient isolement, alors c'est dramatique. Je tiens à le souligner pour que ceux qui souffrent ne se disent pas qu'il est anormal d'avoir ce sentiment de solitude. Quand on apprend un drame, tout ce qui entoure s'efface. Immédiatement, il n'y a plus que la souffrance à l'intérieur de soi. Vous dites que la souffrance ne se compare pas. C'est précieux parce que parfois on ne se sent pas à la hauteur d'une personne qui souffre. Le risque, lorsque l'on se compare, est de se sentir illégitime dans sa souffrance. L'autre est vu comme inaccessible, effrayant. Il m'est arrivé, en parlant des épreuves que j'ai traversées, de rencontrer l'effroi dans le regard des gens. « Comment peut-elle être de ce monde ?» se disait-il. « C'est difficile à vivre. » Dans Consolation, j'explique que cette mise à distance qui me peinait n'avait pas lieu d'être. Ma souffrance a beau être très singulière, elle appelle comme toutes les autres une consolation. Quelle que soit la souffrance, la même relation doit s'instaurer. Cela ne la relativise pas, mais la rend universelle. Avez-vous déjà été confronté à une souffrance qui vous a semblé inaccessible ? Il y a quelques années, lors d'une intervention à Lourdes devant des enfants atrocement handicapés, tout d'un coup, face à de telles souffrances, mon intervention ne m'a plus paru légitime. Alors je me suis dit, je suis juste une maman qui vient parler d'amour. J'ai aussi compris que si les familles font vivre l'amour, La société doit œuvrer pour donner toute leur place aux personnes les plus fragiles. Quelle forme peut prendre cette consolation? Le toucher, des gestes simples, une présence? La consolation est d'abord une relation. Consoler est toujours délicat et douloureux. Ce serait anormal que la consolation soit facile, qu'on la maîtrise. Ce n'est pas un acte que l'on pose, mais une relation que l'on établit. Il s'agit de rapprocher son cœur de celui de l'autre par un geste ou par un mot, d'entrer en relation complètement dans l'instant. Le toucher est particulièrement important parce qu'avec lui, on se sent vivant. L'autre peut s'avancer dans mon espace vital pour adoucir physiquement ma peine. Mais il n'y a pas de recette. On aimerait tant qu'il y en ait une. On serait moins embarrassé. Mais ce n'est pas grave de l'être. Vous évoquez cette infirmière qui vient s'asseoir à côté de vous alors que vous êtes au chevet d'Asilis. Elle m'a dit « Je suis là pour vous ». Ce n'était pas seulement une infirmière avec sa blouse, mais une femme dont l'humanité rejoignait la mienne. Est-ce qu'il faut savoir faire preuve de compassion pour consoler? Oui, mais qui est véritablement indifférent à la peine de l'autre? Certaines personnes ont bien sûr de telles souffrances qu'elles sont verrouillées. Mais la compassion est dans la nature de l'être humain. Je crois très fort aux liens qui nous unissent. Nous ne vivrons pas côte à côte. Le goût des faits divers, par exemple, n'est pas seulement de la complaisance. Il manifeste autre chose, que dans ce lien qui nous unit tous, il existe une attention à la souffrance de l'autre. Elle est naturelle. Il s'agit d'accueillir et non de ressentir la souffrance de l'autre, de l'accompagner. Et les personnes les plus empathiques ne sont pas toujours les meilleures consolatrices. Car la consolation n'est pas un don. C'est une relation à la portée de chacun. À condition d'accepter notre impuissance à gommer la peine de l'autre. On peut seulement marcher avec sa souffrance. Vous soulignez un paradoxe de la souffrance, elle ferme et ouvre le cœur à la fois. Oui, et ce paradoxe se joue et se rejoue constamment. Il faut être réaliste. Un cœur qui souffre a plus de mal à aimer. Lorsque mes filles sont mortes, à chaque fois j'ai été très triste pour Loïc, mon mari. Je suis triste de le voir malheureux, mais il faut admettre que je ressentais d'abord ma propre souffrance. On fait ce que l'on peut. Je crois qu'il faut être doux avec soi-même. Il faut que j'admette que parfois, je ne peux pas accueillir les souffrances des personnes qui viennent vers moi. Dans ces cas-là, il me semble qu'il faut être naturel. Souvent, j'ai dit « là, je ne peux pas, cela me submerge trop ». Vous recueillez de nombreuses confidences de souffrances. Je suis impressionnée par les cohortes de gens qui viennent confier leurs souffrances. Bien souvent, ils n'ont personne à qui parler. Ils viennent exprimer pour la première fois le cœur de leur souffrance. Peut-être pensaient-ils qu'ils ne pouvaient pas parler à quelqu'un qui n'avait pas vécu la même chose qu'eux. Mais il n'y a pas que les personnes qui ont vécu ma souffrance qui peuvent la comprendre. Les larmes font peur, on les retient parfois. Pourtant, pleurer devant quelqu'un manifeste la confiance que l'on a en lui. C'est une grande preuve de confiance, ou bien de grande détresse. Effectivement, parfois certains se sentent coupables de pleurer. Mais quand les larmes arrivent, si je les laisse couler, c'est que je n'ai pas peur du rejet qu'elles pourraient provoquer. C'est aussi un signal envoyé, un appel à la consolation. Dans l'épreuve, on peut trouver, si ce n'est le bonheur, la consolation dans l'instant présent. La parole sincère, le geste qui console, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Il y a beaucoup de peur qui s'évapore quand on est dans l'instant présent. C'est important de comprendre que maintenant, si je souffre, ce n'est pas pour toujours. C'est important de se le redire. Je peux pleurer maintenant en vérité car c'est un instant. Ce n'est pas pour toute la vie. Quelle a été votre prière durant toutes ces années? Quelle est-elle encore aujourd'hui? Ma prière, répond Anne-Dauphine, c'est la discussion. De fait, c'est toujours Dieu qui invite à la prière, qui l'initie. Il est toujours tourné vers moi, toujours disponible. Je parle, je demande, je remercie. Comme un enfant. Et puis j'aime réciter le Notre Père ou le Je vous salue Marie. J'aime beaucoup prier Marie, c'est mon allié. Je me reconnais dans cette mère qui a perdu son enfant. Elle a consenti à ce que son fils donne sa vie. Elle savait que la croix allait arriver et pourtant elle avait en elle la joie. Et pour terminer, en fait, en récusant la souffrance ou la mort, on nie la vie. Anne Dauphine de répondre. Cette dérive est le signe de toutes les peurs de notre époque. En effet, si l'on refuse la mort, on refuse la vie. Aujourd'hui, on veut maîtriser la mort comme on veut maîtriser la vie. C'est d'ailleurs la preuve que la mort fait bien partie intégrante de la vie. Ce qui me gêne est cette volonté de vouloir toujours trouver une explication accessible pour notre intelligence rationnelle à ce qui fondamentalement nous échappe et marque notre limite. Or, il faut bien se réconcilier avec notre finitude pour accueillir le deuil, la souffrance et la peine des autres. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était l'entretien de Anne Dauphine Julien que vous pourrez retrouver en intégralité dans le magazine Prier, numéro 428. Mon handicap est un appel à aller vers l'autre. Privée de l'usage de ses bras et de ses jambes depuis sa naissance, Marie-Caroline Schur croque la vie à pleines dents. Grâce à une foi solidement ancrée et à une épatante force de caractère, elle fait du handicap la clé de sa rencontre avec l'autre. Son témoignage figure actuellement sur Aletheia. Faire de la vulnérabilité une force. C'est le credo de Marie-Caroline Schur, handicapée moteur de naissance et néanmoins professeure d'anglais dans ses collèges et lycées des Yvelines. Chaque jour, elle se déplace grâce à un chérubin, à savoir son fauteuil roulant, et à Victorine, son véhicule aménagé. Mais son vrai moteur, c'est sa surprenante capacité à l'émerveillement. « Ce qui me fait vibrer, c'est l'amour de la vie », dit-elle à Aletheia. Souriante et animée d'une joie profonde, Marie-Caroline ne cherche pas à être prise en pitié. Bien au contraire. Elle s'exclame « Je suis sur quatre roulettes, donc je vais encore plus vite au quotidien. » Dans son appartement versaillais où elle habite, tout un réseau d'amis se relaie chaque soir pour l'aider à se coucher. Elle l'a baptisé « le relais du cœur ». Mes amis m'apportent une aide physique pour tous les gestes les plus simples du quotidien, comme sortir de mon lit ou m'habiller. Pour moi, c'est une invitation à accueillir chaque personne et cela m'aide à être pleinement vivante. Dans la rencontre avec les autres, Marie-Caroline puise la force qui fait sa joie de vivre et son dynamisme. Elle raconte « Ma dépendance est toujours un appel à aller rencontrer l'autre. Il approche ma fragilité et fait tomber certaines peurs. Finalement, nous sommes deux enfants de Dieu qui cheminons ensemble, chacun avec ses petites béquilles. » Éduquée dans un milieu catholique, Marie-Caroline n'a pas perdu la foi malgré son handicap. Bien au contraire. Elle confie « Dans les moments de gros découragement, je demande à Jésus pourquoi je traverse cette épreuve. Le coup de pouce arrive toujours parce que je me sens infiniment aimée du Christ. C'est une consolation telle qu'à chaque fois, la vie repart avec une saveur mille fois décuplée. Si le handicap n'empêche pas la souffrance, le vivre dans la foi lui donne tout son sens. » Marie-Caroline Schur en est la preuve. Et je vous rappelle, pour ceux et celles que ça intéresse, que Marie-Caroline a écrit un livre « Out of the box » La joie à roulette, paru aux éditions du Jubilé. Je vous retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale pour la culture chrétienne. À tout de suite. Maintenant à la culture chrétienne, avec en premier le livre de Priscille Roquebert, intitulé « Du poison au pardon », un livre paru aux éditions du Sacré-Cœur, préfacé par Laurent Guay. Laurent Guay qui dit bien « Quel livre peut être une bombe de miséricorde dans un monde de discorde ?» Voici la présentation de l'ouvrage. « Du poison au pardon » raconte la vie d'une petite fille confrontée très tôt à la maladie et à la violence de son père. À travers ses traumatismes, elle découvre en même temps la gratuité de l'amour de Dieu. Cette petite fille fait le constat douloureux que la grâce n'efface rien, mais aide à aller plus loin. Commence alors un long cheminement fait de choix posés les uns après les autres, à savoir un apprentissage et la conquête de la liberté. Cette histoire raconte la complexité d'une vie, du pardon, des sentiments et des chemins de guérison intérieure, les étapes d'une croissance humaine et spirituelle. À travers son témoignage, l'auteur partage avec nous un message fort d'espérance et de résilience, montrant que sur le chemin de la vie, le choix d'avancer vers la liberté est toujours possible et que Dieu ne te sauve pas sans toi. Nous aurons la joie d'accueillir Priscille Rockbert vendredi en émission Promotion humaine à 9h15. Elle sera en direct pour vous donner son témoignage et parler justement de ce livre, Du poison au pardon. Et enfin, le livre du père Jean-Christophe Thibault, prêtre du diocèse de Metz. Le père Jean-Christophe Thibault a écrit « Libère-nous du mal », guide de discernement et chemin de délivrance des phénomènes diaboliques. Les phénomènes paranormaux nous troublent et s'avèrent un sujet grave, à manipuler avec précaution. Sensation d'être l'objet d'une attaque démoniaque, perception de bruit étrange dans la maison ou déplacement d'objets. Faut-il mettre tous ces phénomènes sur le compte de troubles mentaux ou de manifestations diaboliques? Faut-il systématiquement consulter un exorciste? Comment discerner la gravité d'une attaque démoniaque et que faire concrètement? Spécialiste des courants ésotériques, le père Thibault accompagne les personnes confrontées à ces phénomènes et propose un véritable manuel de discernement théorique et pratique pour tous, prêtres et laïcs compris. Des informations claires et complètes sur la nature des puissances maléfiques, suivies de fiches pratiques et d'une large sélection de prières de délivrance. Donc, il s'agit du livre « Libère-nous du mal, guide de discernement et chemin de délivrance des phénomènes diaboliques » paru aux éditions Artege. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Nous terminons cette revue de presse du 18 janvier 2021. Je vous redonne les titres de l'actualité. Nous avons commencé avec Adolphine Julian. Je vous ai lu une bonne partie de l'entretien qu'elle a donné au magazine Prier. Un entretien donc sur la souffrance et la consolation, à la lumière aussi de son dernier livre « Consolation » paru aux éditions Les Arènes. Je vous ai ensuite donné le témoignage de Marie-Caroline Schur, donc, qui est atteinte d'un handicap moteur depuis sa naissance. Cette jeune femme croque la vie à pleines dents et dit bien que son handicap est un appel à aller vers l'autre. Son témoignage figure sur Aletheia. Culture chrétienne, deux ouvrages, dont le premier, intitulé « Du poison au pardon » de Priscille Rockbert, paru aux éditions du Sacré-Cœur et préfacé par Laurent Guay. Priscille Rockbert, son auteur, sera notre invitée ce vendredi 22 janvier à 9h15 sur Radio Maria France. Et enfin, « Libère-nous du mal, guide de discernement et chemin de délivrance des phénomènes diaboliques » du père Jean-Christophe Thibault. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.